Le péché, ça doit demeurer une sorte d'accident de parcours pour le croyant. Ça ne doit jamais devenir un meuble dans sa vie. Mais c'est pourtant ce qui va nous arriver si on laisse le relâchement spirituel nous atteindre. C'est pour ça que Paul a parlé à quelque part de l'exercice de la piété. Bon, comment on peut s'exercer spirituellement? Bien, c'est en pratiquant les divers moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition. Ce que j'appelle les moyens de grâce, ben, ce sont des exercices spirituels que le croyant peut faire pour se rendre plus conscient de la grâce qu'il a en Jésus-Christ, puis de la maintenir active de façon à pouvoir plus facilement repousser le péché en dehors de sa vie, puis avoir une vie spirituelle plus abondante à tous les points de vue. Il y a plusieurs moyens de grâce. Il y a la prière, la méditation de la parole de Dieu, les partages entre croyants, l'action de grâce, la musique, les cantiques, les réunions de l'Église, l'exercice de notre don particulier, etc., etc. Toutes ces choses-là contribuent à entretenir le croyant spirituellement, à le garder vivant pour Dieu, puis libre aussi de la plupart de ses péchés. Je ne parlerai pas de tous les moyens de grâce ici. La place va m'en empêcher. Je vais m'attarder surtout sur la prière, la parole de Dieu, l'action de grâce, puis surtout l'Église locale. Mais avant tout ça, il est bien important d'établir premièrement que chaque croyant possède déjà la grâce de Dieu en lui. C'est ce que j'appelle la grâce résidente. On va lire une couple de versets qui va prouver ça. Dans 1 Corinthiens 1,4, ça dit, Paul dit, « Je rends grâce à mon Dieu, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ. » Éphésiens 1,6 dit, « À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » 2 Timothée 1,9 dit, « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, encore une fois. » 2 Timothée 2,1 dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Encore une fois. Si Dieu donne la grâce en Jésus-Christ, alors ça veut dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les vrais croyants, participent à cette grâce-là. La grâce de mener une vie sainte, autrement dit, c'est une provision qui est en Christ à même titre que notre justification, par exemple. Bon, on continue, il y a Philippiens 1,7 qui dit, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, qui tous participez à la même grâce que moi. » Acte 4,33 dit, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » Jean 1,16 dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, je pense que ça suffit là pour prouver amplement que tous les chrétiens participent à la grâce de Dieu. On a tous la grâce de vivre au-dessus du péché. Alors, dû au fait qu'ils sont en Jésus-Christ, tous les croyants possèdent maintenant la grâce de Dieu, c'est-à-dire la grâce de vivre au-dessus du péché. Il faut au départ avoir foi ou avoir confiance en la présence de cette grâce sanctifiante-là, nous autres. C'est pour ça qu'il est écrit « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce », nous dit Psaume 32,10. Appuyons-nous sur cette vérité-là fermement. C'est bien important. Aux États-Unis, il y a plusieurs années, on a trouvé un pauvre clochard là, qui était mort à cause d'une trop mauvaise alimentation. Évidemment, il avait mangé dans les poubelles toute sa vie. Le plus triste, c'est qu'ils ont découvert que la ceinture qu'il avait autour du corps était en argent, puis qu'elle avait une valeur d'environ 40 000 piastres. Puis ça, je pense que c'était dans les années 60 en plus. Le pauvre homme avait probablement trouvé ça, là, puis il l'avait mis, là, puis il ne savait pas ce que ça valait. Là. Bon, cet homme-là a mangé dans les poubelles toute sa vie, puis il ne savait même pas qu'il était riche. S'il avait connu la valeur de sa ceinture qu'il avait, là, il aurait pu la vendre puis manger comme un roi tout le reste de sa vie. Mais il était tellement sûr qu'elle valait rien non plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pareil pour nous autres. On a des grandes provisions de grâce en Jésus-Christ. Puis on s'en sert souvent pas. Puis si on s'en sert pas, c'est comme si on n'en avait pas, vous savez. Le résultat est le même. Maintenant, la grâce va être plus grande dans la vie du croyant qui pratique les différents moyens de grâce. Mais elle va malheureusement souvent être beaucoup plus faible chez celui qui ne les pratique pas. C'est un fait. Philip Brooks a dit, La seule façon d'accéder à une plus grande mesure de grâce, c'est de vivre selon celle que nous avons présentement. La grâce et les moyens de grâce sont donc inséparables. C'est important de comprendre ça. On a tous, à notre manière, vécu une expérience plus ou moins stimulante à notre conversion. Mais beaucoup d'entre nous autres, on a vite découvert aussi qu'on ne pouvait pas fonctionner sur cette terre d'aller-là toute notre vie. Hein? Dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut fonctionner sur ses réserves de départ bien longtemps. Certains croyants s'attiédissent après 1 an, 5 ans, 10 ans de vie chrétienne. Pour d'autres, juste une couple de mois, ça suffit. Mais que ce soit tôt ou que ce soit tard, il va arriver un jour que la stimulation de notre expérience initiale va se dissiper. Faut pas rêver. Alors c'est dans notre intérêt qu'on apprenne le plus tôt possible à marcher proche du Seigneur en obéissant à l'esprit de prière qui est en chacun de nous autres, puis à pratiquer les autres moyens de grâce, sinon on va éprouver une perte très rapide au niveau de la grâce qu'on a reçue. Si la grâce nous paraît absente dans notre vie, c'est toujours parce qu'elle est sous-alimentée, puis qu'on a laissé le relâchement ou le péché entrer dans notre vie à la place. La vérité, c'est que même si on reçoit une grande mesure de grâce à notre conversion, si on ne l'entretient pas, elle va s'éteindre de la même façon qu'un feu de bois qu'on a négligé d'alimenter. Si on n'apprend pas à nous nourrir spirituellement, on va mourir de faim. Puis il n'y a pas grand-chose que Dieu va pouvoir faire à part nous envoyer des gens pour nous exhorter à nous secouer un peu, puis de sortir de notre négligence. Alors, soyons pas paresseux ou négligents, mais profitons des moyens que Dieu nous a donnés pour nous maintenir dans sa volonté, puis dans la sainteté. La négligence, là, c'est la mort du chrétien. Mais la diligence et le zèle spirituel mènent à une vie spirituelle toujours plus abondante. Il y a une chose que j'aimerais préciser. Avoir la grâce, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté. Mais ça veut dire qu'on a la force suffisante pour surmonter la tentation. La grâce enlève jamais au croyant sa capacité de pécher s'il le veut. À part la négligence, il y a aussi le péché qui peut nous priver de la grâce de Dieu. En Ésaïe 59, verset 2, Dieu avait dit à Israël, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Bon, quand on pêche, on a toujours le sentiment du retrait de la grâce de Dieu, plus ou moins. C'est une expérience angoissante pour le croyant, l'éloignement de Dieu, je parle, par laquelle Dieu nous discipline, puis nous enseigne à ne pas attrister l'Esprit Saint. Quand on attriste l'Esprit Saint, ça chasse le sentiment de la faveur de Dieu pendant un bout de temps dans notre vie. Quand on pêche, on est triste. Tous les chrétiens normaux le sont, en tout cas. Dieu nous fait ressentir par son Esprit ce que l'Esprit ressent lui-même. Puis ça nous permet de nous motiver à travailler plus sérieusement à la conservation de la grâce en marchant d'une manière digne de la vocation qui nous a été faite. Quand on pêche, on perd une certaine quantité de grâce. Notre communion avec Dieu en souffre. Bon, j'ai pas dit que le croyant perdait complètement la faveur de Dieu quand il péchait, mais j'ai dit qu'en attristant l'esprit, la grâce se retire et s'éloigne un peu. C'est Billy Graham qui disait que notre relation avec Dieu était plus solide, était la chose la plus solide qui soit au monde, mais que notre communion avec lui, par contre, était la chose la plus fragile qui soit. Quand on pêche, on sent mal dans notre peau, puis c'est correct de sentir mal. OK? Il y en a qui enseignent le contraire, il y en a qui pensent que tout sentiment, le moindre sentiment de condamnation vient du diable, qu'il faut rejeter ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je répète que quand on pêche, on sent mal dans notre peau, puis moi je dis que c'est correct de sentir comme ça. C'est normal, c'est bon pour nous autres. En fait, c'est rien que de cette façon-là qu'on s'est vraiment écarté de la volonté de Dieu dans notre vie, puis qu'on va le prendre au sérieux. Tout péché est en fait un éloignement volontaire de Dieu. Avez-vous réalisé ça? Le sentiment de l'éloignement de Dieu nous fait réaliser qu'on était plus heureux en vivant près de Dieu. C'est ça le but du sentiment de l'éloignement de Dieu ou d'un peu de condamnation. Jérémie 2,19 dit avec raison, « Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. » Et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alors, la sainteté, par contre, c'est la mère de la joie et de la santé spirituelle. Alors, il faut être à l'écoute un petit peu de nos sentiments pour découvrir la voix de Dieu en dessous des fois. Il arrive aussi que le croyant se soit tellement habitué à la présence de la grâce dans sa vie, qu'il soit tellement habitué de la voir, qu'il n'a plus l'impression de l'avoir du tout à un moment donné. En fait, c'est rien qu'en la perdant quelquefois, ou en ayant le sentiment de l'avoir perdue, qu'il réalise tout d'un coup jusqu'à quel point il la possédait avant, puis qu'il s'y était endurci jusqu'à plus la sentir. C'est dangereux, ça. Il y a un passage, entre autres, qui parle du phénomène de l'endurcissement. On a ça en Hébreu 6, versets 7 et 8, qui dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Alors, ça se passe de commentaires, ce verset-là. Ça parle de l'endurcissement. Puis c'est un phénomène qui n'est pas complètement étranger, même aux enfants de Dieu. On se demande des fois où c'est qu'allait la grâce dans notre vie. Mais Dieu a peut-être envie de nous répondre. « Regarde en dessous de tes pieds, mon ami, t'es justement en train de marcher dessus. » Pour le croyant, pécher, c'est un peu marcher sur la grâce. Alors la question qui se pose, c'est pas « Est-ce que j'ai la grâce ou non dans ma vie ?» mais plutôt « Est-ce que je vais obéir à la grâce ou m'y endurcir ?» Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, les amis, c'est que Dieu ne se fatiguera pas très longtemps avec les gens qui se moquent de ses avertissements, puis de ses corrections, puis de ses exhortations. Si on laisse Dieu parler dans le vide, il ne parlera pas longtemps, vous pouvez en être sûr. À un moment donné, si Dieu voit que notre volonté, c'est vraiment de marcher loin de lui, de marcher éloigné de lui, il va nous laisser faire, c'est tout. On voit dans les évangiles que Jésus-Christ courait jamais après les gens. Ce sont les gens qui couraient après lui. On ne voit pas nulle part Jésus-Christ qui s'agrippait au manteau des gens puis qui se retournait contre lui pour essayer de les retenir. On n'a jamais vu ça puis on ne le verra pas non plus. C'est pareil dans nos vies. L'Esprit-Saint est comparé à une colombe dans les Écritures. Vous avez déjà vu des pigeons, comment ça se comporte. Bon, si on est doux, si on fait attention à eux autres, ils peuvent venir nous manger dans la main. Mais si on est de mauvaise humeur, là, puis si on tape du pied par terre une seule fois, quand ils sont proches de nous autres, ils vont tous s'envoler d'un seul coup. Puis vous ne verrez pas l'heure des voix se rapprocher. Vous allez avoir besoin beaucoup de douceur. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Si on est docile, soumis et enseignable, Dieu va nous bénir de sa présence puis de sa grâce avec abondance. Mais si on est rebelle, négligent, contredisant puis querelleur, si on prend un malin plaisir dans notre cœur à envoyer foutre les gens qui nous exhortent, pensez pas que l'Esprit de Dieu va rester là bien longtemps à se faire frapper sur la bouche. Tout ça pour dire que si tant de croyants ont si peu de grâce, c'est souvent parce qu'ils l'ont chassé eux-mêmes par leur attitude rebelle. Je connais des chrétiens, moi, qui se convainquent eux-mêmes, qui sont en train de se convaincre eux-mêmes depuis des années que Dieu est vraiment avec eux autres, puis que Dieu est encore avec eux autres. Mais par leur esprit rebelle et querelleur, ils ont chassé la présence de l'Esprit de Dieu. Ils marchent dans la chair, ils se sentent charnels, ils sont charnels, ils conduisent les autres selon la chair, puis ils s'en rendent même pas compte, ou ils s'en rendent compte, mais ils veulent pas l'admettre. La rébellion est trop agréable, ils veulent la garder, puis ils se condamnent eux-mêmes à une vie sèche, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça qu'ils ont. Galates 6, 7 à 9 nous dit, « Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est-à-dire que si on est soumis à l'esprit, au lieu de voir notre vie spirituelle se détériorer, bien, ça va au contraire nous payer spirituellement, puis qu'on va avoir une vie spirituelle plus abondante, plus agréable, puis plus édifiante. Bon, parlons un peu de la parole de Dieu maintenant. L'étude personnelle de la parole de Dieu, puis la méditation de ce qu'on a lu, par exemple, est un autre des moyens d'entretenir la grâce qu'on a reçue. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Mais écoutez bien ça. Mieux vaut étudier un seul verset lentement que de lire 5 chapitres rapidement. Généralement, Dieu ne demande pas aux croyants de lire beaucoup, mais de lire mieux. C'est souvent, très souvent, les croyants font déjà ce qu'il faut dans ce domaine-là. C'est juste qu'ils font peut-être d'une façon trop superficielle. C'est pour ça qu'ils n'en tirent pas autant qu'ils devraient de la parole de Dieu. laissons pas la parole de Dieu. Je veux dire, lisons pas la parole de Dieu, méditons-la. Quand on s'envoie à la campagne en auto, là, pour se promener le dimanche, on va pas à 100 000 à l'heure. Hein. On prend notre temps pour voir quelque chose. Ce qui est encore mieux que de passer lentement, c'est de camper. Là, on manque à rien. Spirituellement, c'est la même chose avec la Bible. Au lieu de juste lire les Écritures, on devrait camper dedans. Voilà une façon de le faire. Dans un esprit de prière, puis dans une attitude qui va permettre à la parole de Dieu de pénétrer en nous autres, bien, on prend un verset, là, puis on lit lentement, en pesant bien sur chaque mot, de façon à empresser tout le jus qu'il y a dedans. Là. Faites ça à peu près une quinzaine de fois sur le même verset, en repassant dessus, là, puis vous allez être surpris de tout ce que vous allez tirer de ce verset-là. Intellectuellement, vous allez peut-être pas tirer grand-chose, mais si vous avez soif de Dieu, ça vous empêchera pas d'être béni spirituellement, par exemple. Moi, je connais une vieille dame chrétienne là, qui a presque plus de mémoire, qui souffre en plus de sa glande thyroïde, ce qui handicape ses capacités de compréhension. Ça veut dire qu'elle est très défavorisée comparée à nous tous, pas vrai? À un moment donné, elle me dit, « Moi, quand j'écoute un message, je me souviens plus de rien 2 minutes plus tard. Ou quand je lis ma Bible, je comprends presque plus rien de ce que je lis. » Bon, elle était bien affligée de ça, parce que, en tout cas... Mais j'ai essayé de lui expliquer que quand on lit la Bible, c'était pas la partie qui demeurait dans la tête qui nous faisait vraiment du bien, mais la partie qui descendait dans notre cœur, puis dans notre caractère, sans qu'on s'en rende compte, souvent. Puis quand même, si elle comprenait pas ce qu'elle lisait, intellectuellement, si ça lui faisait du bien de lire sa Bible, ben, si ça la nourrissait spirituellement, si elle se sentait rapprochée de Dieu, ben, c'était ça le principal. Elle m'a avoué que ça lui faisait du bien, effectivement, de lire sa Bible, même si elle comprenait pas. Quand elle négligeait de lire sa Bible, elle devenait dépressive, plus angoissée, elle se sentait éloignée de Dieu, puis elle était mal dans sa peau. Mais quand qu'elle lit sa Bible, même si elle comprend pas le 3/4 des choses qu'elle lit, elle dit que ça lui fait du bien à son moral, elle pêche moins avec sa langue, elle est beaucoup plus en paix, puis elle se sent plus près de Dieu, puis en meilleure santé spirituellement. Alors même si on a de la difficulté à comprendre ce qu'on lit, là, si on n'est pas des intellectuels, là, c'est pas ça qui est le plus important. Il s'agit surtout de laisser pénétrer en nous autres l'esprit de grâce qui est derrière les Écritures, comprenez-vous? On n'a pas toujours conscience du bien que ça nous fait de lire la Bible ou d'aller à l'Église, par exemple. Mais quand on arrête de le faire, on sent qu'on régresse spirituellement. Alors ça veut dire que ça nous faisait du bien, puis qu'on pensait pas dans le fond. Hein? Alors c'est pas de lire beaucoup qui compte, mais de lire avec un cœur édifiable. Lire 3 ou 4 versets de cette façon-là, ça va nous faire progresser dans le Seigneur bien plus que de nous forcer pour lire 5 ou 6 chapitres à tous les jours. C'est définitivement pas la quantité de semences qui compte, mais la qualité de la terre dans laquelle on la sème, qui fait la différence. Alors, adoptons une attitude enseignable et disposée à nous laisser édifier ou corriger par Jésus-Christ, puis là, on va tirer quelque chose de la Bible, même si on n'est pas le genre intellectuel du tout. On va parler un peu de la prière maintenant. En Luc 22, 49, 50, ça dit, « Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui était arrivé, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » L'un d'eux, Pierre, frappa le souverain sacrificateur, le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite. Bon, Pierre a réagi selon la chair, parce qu'il était spirituellement pas prêt à réagir autrement. C'est bien de valeur. S'il avait prié un peu plus tôt, comme le Seigneur lui avait demandé, il n'aurait sûrement pas posé une action aussi charnelle. Puis c'est comme lui, on attend d'être au beau milieu d'une crise, d'une mauvaise situation avant de prier. Il va probablement déjà être trop tard. Andrew Murray a écrit avec raison, « À partir d'une vie de prière déficiente, on ne peut rien espérer d'autre qu'une vie spirituelle déficiente. Notre champ de prière est le champ de bataille où les victoires décisives s'obtiennent. » Fin de citation. Dans le domaine de la sanctification, la prière est un excellent moyen de grâce. C'est pas juste en disant « Seigneur, enlève-moi ce péché-là » que le péché va partir de nos vies. C'est évident. C'est pas à ça que je pense quand je parle de prière. Le péché partira pas en priant comme ça. Il partira pas simplement parce que Dieu travaille pas de cette façon-là. Prier, c'est pas juste demander des choses à Dieu. Ça, c'est la dernière des prières. Même les païens peuvent prier comme ça. Mais pour le croyant, prier, ça doit devenir une communion spirituelle avec Dieu. Puis communier avec Dieu, ça va changer notre état spirituel, par exemple. Puis quand notre état spirituel va changer, notre état extérieur va forcément changer aussi avec le temps. Quand on prie, Dieu n'intervient pas directement pour nous enlever le péché. Dieu a déjà réglé la question du péché en Jésus-Christ. La balle est dans notre camp, autrement dit. Le chrétien n'a plus vraiment de problème avec le péché. Il a plutôt des problèmes avec lui-même maintenant. C'est important de comprendre ça. La libération du péché en tant que tel, on l'a déjà obtenue en Christ. Mais on n'en est malheureusement pas tous conscients de ça. Paul a dit en Romains 5, 20 que « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » C'est pas interdit de le faire, mais c'est pas nécessaire de prier puis de demander de la grâce à Dieu. Pourquoi? Eh bien, on vient encore de le voir parce que la grâce surabonde déjà dans la vie de chaque croyant. C'est l'œuvre accomplie de Christ qui est à la base de notre sanctification. Alors, c'est plutôt préférable de prier dans le but d'affermir notre foi en l'œuvre déjà accomplie de Jésus-Christ, puis de prier pour acquérir plus de soumission envers la grâce qu'on a déjà. Voilà pourquoi qu'on devrait prier avant tout. La libération du péché, c'est pas quelque chose qu'on peut obtenir du jour au lendemain, là, uniquement en la demandant à Dieu. La libération du péché, je parle dans le domaine pratique, là, c'est très étroitement lié à la qualité de notre vie spirituelle tout entière. Tu peux pas, par exemple, être libre de la convoitise si tu négliges la prière personnelle, la méditation de la parole de Dieu, puis que tu vas à peu près pas à l'église, puis que tu parles jamais avec d'autres chrétiens. Ça va tout ensemble, ces affaires-là. On pourrait dire que la sainteté, c'est le fruit de la santé spirituelle. La sanctification ne peut pas être recherchée à part la santé spirituelle. Dieu va plutôt essayer de travailler dans notre cœur pour nous amener à être plus déterminés, à rompre avec notre péché, puis nous amener à être plus obéissants à sa grâce. C'est pour ça que la prière devrait être faite, en tout cas. Alors, au lieu de mendier une intervention directe de Dieu, servons-nous de nos moments de prière comme un moyen de laisser Dieu amener notre volonté à renoncer au péché plus profondément. La prière, c'est un moyen de formation spirituelle. Donc, celui qui aspire à se défaire d'un certain péché doit d'abord rétablir l'autel de la prière dans sa vie. La prière, c'est la respiration spirituelle du croyant. Mieux respirer, c'est mieux vivre, comme on dit. C'est vrai, d'autant plus vrai dans le domaine spirituel. Jésus a dit en Jean 17, 21 à 23, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, c'est-à-dire un avec Dieu. Chaque chrétien doit atteindre l'unité avec Dieu, doit viser à parfaire toujours cette unité-là avec Dieu. La sainteté, c'est pas seulement se retenir de péché. Bon, c'était peut-être comme ça qu'on voyait la sanctification sous l'Ancien Testament, hein? Mais cette vieille définition de la sainteté-là est complètement dépassée quand on arrive au christianisme. La sainteté, c'est une union avec Dieu. La sainteté, c'est partager les propres affections de Dieu à propos du bien, puis de partager sa propre haine à propos du mal. Être saint, c'est pas juste se conformer à des lois. Mais le but de Dieu, c'est de nous faire aimer ce qu'il aime, puis nous faire haïr ce qu'il est lui-même. Être saint, c'est être uni à Dieu. Notre sainteté est souvent égale à notre unité, intimité avec Dieu. Je répète ça. Notre sainteté est souvent égale à notre intimité avec Dieu. Être près de Dieu, c'est être près de la sainteté. La qualité de notre vie spirituelle est donc égale à la qualité de notre union avec Dieu. C'est ce que ce verset-là nous enseigne. Alors, travailler à parfaire notre union avec Dieu par le moyen de la prière va nous amener naturellement à devenir plus saints, intérieurement d'abord, puis extérieurement plus tard. En psaume 119, 112, David a dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts ». Dieu ne nous demande pas de nous forcer pour mettre sa parole en pratique, mais plutôt d'incliner notre cœur vers elle. Puis il n'y a rien que dans la prière qu'on peut cultiver ça. Le péché nous éloigne de la prière, mais la prière va nous éloigner du péché, gloire à Dieu pour ça, alors combattons le bon combat. La sanctification, c'est avant tout une question de soumission du cœur, et non d'effort de la chair. On doit sans cesse soumettre notre volonté pécheresse à la volonté sainte du Saint-Esprit. C'est ça que chaque croyant est appelé à faire. dans ce sens-là, la prière joue l'important rôle de modeler notre cœur puis de le rendre sensible à la grâce. Il n'y a rien qu'à travers la prière qu'on va pouvoir parfaire notre union avec Christ puis qu'on va pouvoir récolter quelques fruits de sa présence en nous autres. Je répète encore que le rôle de prière n'est pas de mendier la grâce de Dieu, mais de disposer notre cœur à obéir davantage à celle qu'on possède déjà. La prière contribue aussi à nous rapprocher de Dieu, ce qui fait qu'on peut partager davantage ses affections, du moins on les sent plus. La prière contribue à former en nous autres une attitude générale de soumission à l'Esprit-Saint, ce qui a pour effet d'augmenter notre sensibilité à la grâce, donc aussi de faciliter notre obéissance. La prière favorise le renoncement au péché, puis encore plus si on pratique le jeûne avec ça. Le jeûne humilie la chair, ça affaiblit la chair, donc ça affaiblit aussi la tentation. Quand le corps est sans force, il n'y a pas grand-chose que le diable peut faire avec. Si le croyant ne prie pas, bon, il est comme une semence quelconque là, qui a été plantée dans une terre sèche. Le potentiel est présent, mais la semence va demeurer stérile, faute de ne pas avoir été arrosée. C'est pareil pour la grâce de Dieu dans notre vie. Si on ne pratique pas les moyens de grâce, la grâce a beau être en nous autres, tant qu'elle veut, mais elle ne pourrait pas porter de fruits, par exemple. Elle ne pourrait pas porter beaucoup de fruits. Mais encore une fois, ce n'est pas le temps qu'on consacre à la prière qui importe, mais la qualité ou l'intensité de notre aspiration vers Dieu. 3 minutes de prière intense puis honnête par jour peuvent se révéler amplement suffisants pour transformer complètement une vie spirituellement sèche. Prenons courage. La prospérité spirituelle, ce n'est pas quelque chose d'aussi difficile à atteindre qu'on pense généralement. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique, nous dit Deutéronome 30, 14. Fermez les yeux seulement 2 minutes le matin, puis une autre fois le soir avant de nous coucher, pour bénir Dieu, puis le remercier de nous avoir acceptés, puis de nous avoir aimés. Ça peut vraiment changer notre vie spirituelle au bout d'un certain temps, d'un bout à l'autre. Montrez-moi un croyant qui n'a pas prié depuis des années, puis je vais vous montrer quelqu'un qui n'a pas changé depuis des années. Les moyens de grâce là, sont importants pour l'accomplissement de la sanctification, non seulement parce qu'ils font un ministère dans notre cœur, mais parce qu'ils sont aussi porteurs de bénédictions spirituelles. Paul a dit en 2 Corinthiens 3, 18, « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » En d'autres mots, le croyant est transformé d'expérience bénissante en expérience bénissante, ou d'expérience édifiante en expérience édifiante, si vous préférez. Tout ce qui bénit, sanctifie. Tout ce qui édifie, tout ce qui communique une grâce, contribue à affaiblir la tentation dans notre vie. Donc, à nous défaire du péché, puis à nous transformer en l'image de Jésus-Christ. Évidemment, ça c'est si on coopère avec la grâce qu'on ressent. Montrez-moi quelqu'un qui se sent jamais béni dans sa vie chrétienne, puis je vais vous montrer quelqu'un qui n'est pas capable de changer, qui ne change pas, puis qui marche selon la chair souvent. Montrez-moi un leader spirituel qui n'est jamais béni dans sa vie, puis je vais vous montrer un leader qui conduit souvent les autres selon la chair, sans s'en rendre compte également. Andrew Murray a encore dit, « Vivre une vie de grâce dépend entièrement du temps que l'homme est prêt à y mettre jour après jour. » La nature entière nous enseigne que tout ce qui n'est pas arrosé régulièrement finit par sécher puis mourir. Alors, tout croyant doit faire des efforts pour mettre du temps de côté pour communier avec Dieu dans la prière. Puis ça, c'est afin de s'exposer à la présence bénissante et sanctifiante de Dieu, entre autres choses. La présence de Dieu est sanctifiante. Quand on est proche de Dieu, on peut renoncer beaucoup plus facilement au péché, mais loin de lui, il n'y a rien de moins certain, par exemple. Il est préférable d'investir plus dans la prière que les efforts. Moi, personnellement, j'ai davantage confiance dans la prière que je fais le soir qu'en tous les efforts que je vais fournir le lendemain pour me sanctifier. En réalité, on ne peut pas séparer les deux. La prière seule ne sanctifie pas, puis les efforts seuls non plus. Sans prier, il est impossible de se sanctifier. Pour devenir plus saint, il faut obligatoirement avoir commerce avec les bénédictions du Saint-Esprit. L'homme doit communiquer avec Dieu, ou communier avec lui, pour en venir à lui ressembler, c'est obligatoire. Il faut rechercher la plénitude du Saint-Esprit, puis il faut ensuite travailler à demeurer rempli. La réception du Saint-Esprit, là, c'est juste le commencement de la sanctification. Quand on pratique les moyens de grâce, le Saint-Esprit travaille d'abord à nous inspirer de pieux sentiments. Puis le rôle de ces pieux sentiments-là, ensuite, c'est de nous inspirer, à leur tour, de pieux désirs. Le but de Dieu derrière la bénédiction, c'est de réussir à toucher notre volonté puis de remplir notre cœur de saintes résolutions. Remplir notre cœur puis notre caractère puis tout ce qui est important de remplir. Dieu commence par nous bénir sensiblement pour nous amener à lui donner la permission de s'introduire dans notre volonté, dans nos décisions puis dans notre caractère. L'Esprit-Saint ne désire pas seulement se limiter à remplir nos bouches de louanges, par exemple, ou nos cœurs de joie. Son but derrière tout ça, c'est ultimement de remplir notre volonté puis de nous amener à renoncer au péché puis à changer de conduite dans notre vie quotidienne. Si on permet seulement au Saint-Esprit de nous bénir puis qu'on ne le laisse pas entrer plus profondément que ça en nous, je m'excuse, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit, contrairement à ce que certains croyants peuvent penser. C'est très très bien de chercher à être béni émotionnellement, mais moi je dis que tant que notre volonté intérieure ne prendra pas des résolutions contre le péché, on ne pourra pas dire que notre vie est remplie du Saint-Esprit. L'expression « Saint-Esprit » nous dit que son ministère est d'abord et avant tout d'accomplir un travail de sanctification en nous autres. Les bénédictions sensibles sont juste un des moyens que l'Esprit utilise pour arriver à ce but-là. Alors, être béni, ce n'est pas la fin de notre expérience avec le Saint-Esprit, mais seulement le commencement. Oui, recherchons à être béni le plus souvent possible, même. Mais laissons aussi les bénédictions de Dieu faire leur ministère en nous autres, jusqu'au bout. Alors voyez-vous, on prend souvent les choses par le mauvais bout dans la sanctification. Au lieu d'essayer de s'agripper plus pour ne pas tomber dans le péché, on devrait d'abord avoir pour objectif de prier plus. On ne sanctifie pas sans Dieu, vous savez. C'est dans la prière que Dieu nous apprend à courber notre cou devant sa sainte volonté. C'est dans la prière qu'on va pouvoir maintenir une attitude de renoncement face à nos péchés, puis qu'on va pouvoir conserver notre autorité sur notre chair, puis maintenir la victoire que le Christ nous a déjà acquise. Croyons à la grâce de Dieu. Ayons confiance dans son ministère. Le mot grec traduit par croire dans le Nouveau Testament signifie être persuadé, placer sa confiance en, se reposer avec assurance sur, dépendre de Christ. La grâce, c'est l'appui de notre sainteté. La prière, c'est l'élément principal puis le plus important dans la sanctification, parce qu'elle nous aide justement à croire en la grâce de Dieu puis à compter dessus. On va parler un petit peu de l'action de grâce maintenant. Bon, l'action de grâce, c'est juste un petit exercice spirituel qu'on peut faire, qui n'est pas compliqué du tout, mais qui peut être pas mal enrichissant, par exemple. L'action de grâce, comme l'expression le dit, c'est l'action de reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie, où c'est calé. C'est-à-dire de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, puis qu'il nous donne encore à tous les jours, puis qu'on ne mérite pas, comme un bienfait, par exemple, un secours ou une bénédiction reçue. L'action de grâce, c'est un acte d'humilité par lequel on reconnaît la main de Dieu. Par exemple, « Seigneur, je reconnais le bien que tu m'as fait. Je reconnais les bonnes choses que tu fais pour moi, puis que je ne mérite pas. Tout ce que tu fais pour moi, tu le fais en pure grâce, et pas parce que je le mérite. C'est pour ça que je tiens à prendre le temps de m'arrêter pour te rendre un peu de ce que tu m'as donné en disant merci. » L'Écriture nous donne des exemples. Jésus a rendu grâce pour l'exaucement d'une prière en Jean 11, 41. Les croyants rendaient continuellement grâce pour la nourriture en Romains 14, 6. Paul a rendu grâce de l'avoir fortifié spirituellement en 1 Timothée 1:12. Il a rendu grâce de ce que Dieu lui avait évité de commettre une erreur en 1 Corinthiens 1, 13-14. Il a encore rendu grâce pour le bon témoignage de l'Église de Rome en Romains 1:8. Il a rendu grâce à Dieu pour le fait qu'il ait donné plusieurs dons spirituels à l'Église en 1 Corinthiens 14-18. Il rendait grâce de ce que Dieu lui a donné le fardeau de prier pour les Églises même. En Éphésiens 1:16 et Colossiens 1:3, Paul a aussi rendu grâce pour l'œuvre de conviction qu'il avait faite dans le cœur des croyants de Thessalonique à propos des vérités de la parole de Dieu, en 1 Thessaloniciens 2:13. Paul encourage les croyants à rendre grâce d'avoir part à l'héritage céleste, d'avoir été délivré de la puissance des ténèbres, en Colossiens 1:12, 13. Paul encourageait les croyants à rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qu'ils recevaient de la part de leurs différents ministères, en 2 Corinthiens 1:11. Paul rendait grâce pour l'empressement puis le zèle que Tite avait dans son ministère envers l'Église, en 2 Corinthiens 8, 16. Paul rendait grâce à Dieu pour son salut, en 2 Corinthiens 9, 15. Pour finir, Paul nous exhorte à rendre grâce simplement en toutes choses, en 1 Thessaloniciens 5, 18. Mais attention, une action de grâce, ce n'est pas seulement une petite pensée qu'on a dans la tête. L'action de grâce, c'est vraiment l'action de s'arrêter, puis de verbaliser notre reconnaissance. Quand on s'arrête pour Dieu, ça prend une valeur bien spéciale à ses yeux. La sorte d'action de grâce qu'on fait en même temps qu'on est en train de faire autre chose est souvent faite un peu pour se débarrasser, si vous voulez mon avis. Notons aussi qu'il n'y a pas seulement avec notre bouche qu'on peut rendre grâce à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous lance un défi pas mal intéressant. En Hébreux 12, 28, il nous dit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Rendre un culte à Dieu, ça veut dire servir Dieu, en action et en vérité. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que plusieurs traductions l'ont rendu aussi. Ce qui veut dire qu'on remercie Dieu en nous efforçant, par exemple, de mener une vie d'une manière qui soit plus digne de lui. Parlons de l'Église locale maintenant. Notre Seigneur envoyait ses disciples deux à deux, probablement, pour se donner une plus grande force morale devant l'opposition puis les difficultés. L'union fait la force, dit le proverbe. Dallas Willard a écrit « Laissez d'autres personnes dont nous avons confiance connaître nos manquements et nos plus profondes faiblesses nourrira en nous de l'humilité devant nos frères et sœurs. En laissant ainsi quelques amis en Christ connaître qui nous sommes vraiment, ne retenant rien d'important et permettant idéalement une complète transparence, nous pourrons nous décharger du fardeau qu'est la simulation et la comédie, qui normalement exigent une grande quantité d'énergie. On dit que la confession est bonne pour l'âme et mauvaise pour la réputation, car une mauvaise réputation rend la vie plus difficile dans nos relations avec ceux qui nous côtoient et nous connaissent, mais une relation étroite est la confession, tend à chasser le mal. Rien n'encourage autant la bonne conduite que de vivre dans la vérité. Seule la confession peut rendre une bonne communion fraternelle possible. Et l'absence de celle-ci explique bien la superficialité de notre communion dans nos églises. Bon, fin de citation. Dans la plupart des messages que j'ai entendus, moi, les prédicateurs traitaient généralement la question de la victoire sur le péché au niveau de la responsabilité personnelle. Bon, je suis bien d'accord avec ça, c'est sûrement l'aspect le plus important, mais aujourd'hui, je réalise de plus en plus l'importance aussi du rôle qu'est appelé à jouer également l'Église locale dans notre sanctification personnelle. En Romains chapitre 6, Paul nous enseigne que le secret de la sanctification se trouve en notre union avec la mort et la résurrection de Christ. Mais ce serait une grave erreur de penser que ce passage-là a une portée uniquement individuelle. Cette vérité théologique-là a une grande valeur, mais sans certaines dimensions pratiques, là, notre théologie va peut-être manquer de puissance à un moment donné. Puis on va se demander pourquoi. Être en Christ suggère certainement un aspect personnel, mais ça inclut également toute la question de l'appartenance au corps de Christ qui est son Église. Puis où le croyant va jouir d'une aide concrète puis d'une influence bénéfique dans sa sanctification. De façon pratique, là, être en Christ, ça signifie aussi être dans l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ, comprenez-vous, ma façon de penser. Donc, de façon pratique, notre union avec Christ implique ou inclut aussi notre union avec l'Église locale. L'Église locale est un très important moyen de grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui sont touchés par le Seigneur. Bon, ils ont été touchés. Ils ont même commencé à lire la Bible, mais ils ont trop peur de se joindre à une église. Comment il y en a de personnes comme ça? Alors, comme ils sont tout seuls, en peu de temps, ils retombent très vite là où ils étaient. Généralement, c'est pas long. Une semaine, c'est suffisant, généralement. Bon, s'ils s'étaient joints tout de suite à une église évangélique, ils auraient pu recevoir plus de lumière puis achever leur conversion. Les gens touchés par le Seigneur, puis qui refusent de se joindre à une église, là, le diable en mange des douzaines en se levant tous les matins. C'est bien triste, mais c'est le même. L'Église est tout à fait nécessaire à la sanctification. Le péché nous éloigne de l'Église, mais l'Église va nous éloigner du péché aussi. Évidemment, ça c'est si l'Église n'est pas trop rétrograde spirituellement pour remplir son rôle. L'Église est supposée être une terre sainte, où le péché ne devrait pas pouvoir pousser facilement, où les gens devraient avoir la crainte de pécher. Parce qu'ils sentent la sainteté de Dieu, pas parce qu'ils sont contraints par toutes sortes de règles. parce que ça serait vraiment pas authentique. Les encouragements qui nous sont prodigués par toutes les différentes exhortations qu'on entend dans l'Église nous communiquent la grâce de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Exhorter, ça veut dire aider les gens à marcher pour Dieu. Une bonne exhortation là, va produire un empressement, puis un désir de marcher dans les voies de Dieu davantage, ou de marcher plus étroitement avec Dieu. L'exhortation encourage la bonne volonté. L'exhortation communique de la grâce, puis nous aide à vouloir obéir à Dieu, puis à y trouver du plaisir même. En Job 29:22, ça dit « Ma parole était pour tous une bienfaisante rosée ». Ça décrit bien de façon poétique l'effet de l'exhortation. Alors on voit que le don d'exhortation est excessivement important dans la vie de l'Église. Je dirais même que c'est le don spirituel le plus important puis le plus utile dans l'Église. On doit travailler à notre sanctification de façon individuelle, c'est sûr, mais on ne doit pas oublier que la sanctification, c'est quelque chose à laquelle l'Église doit également travailler ensemble. La prière des autres, c'est un autre de ces moyens-là, selon ce qui est écrit en 1 Jean 5,16 nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Il y a aussi en Jacques 5,16 qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Bon, c'est la responsabilité de chaque croyant de prendre part à la sanctification des autres. Même si on a des problèmes nous autres mêmes, dans certains domaines, on peut certainement apporter notre aide dans d'autres domaines à certaines personnes. L'Écriture atteste encore cette interaction-là entre les croyants. En Jude 20 à 23, en disant « Pour vous, bien-aimés, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Le mot « salut », là, « sauvez-en d'autres », le mot « salut » dans le Nouveau Testament prend très souvent le sens de sanctification. Par exemple, « sauvez-vous de cette génération perverse » en Actes 2,40. Bon, tout nouveau converti, ayant des problèmes d'addiction, là, comme la drogue, l'homosexualité, la fornication, l'alcoolisme, devrait être amené hors de leur ancien milieu afin de faciliter leur rupture avec le péché. Arracher quelqu'un du feu, comme le dit Jude, ça décrit bien cette séparation radicale-là, qui est souvent nécessaire à la sanctification. Le mot grec qui a été traduit par « église » dans la Bible, c'est « ecclésia », qui signifie littéralement « appelé hors de ». L'Église, c'est un monde au milieu d'un autre monde. Le plan de Dieu, c'est que l'Église soit un monde saint au milieu de notre monde souillé. La principale raison d'être de l'Église locale, c'est précisément de jouer ce rôle sanctifiant-là pour les croyants, puis de les protéger de l'influence du monde, en étant une influence sainte pour eux autres, qui va combattre l'influence mauvaise du monde dans lequel on vit aussi. La principale fonction de l'Église locale, c'est donc d'aider tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur à réaliser leur séparation avec ce monde de péché-là. Les croyants qui ont des problèmes avec le péché ont souvent besoin d'une aide plus concrète qu'un simple enseignement théologique. Sur Romains chapitre 6, par exemple, à propos de leur mort au péché. En Jacques 2, 15, 16, ça dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Je veux dire par là que Dieu n'a pas seulement destiné les églises locales à être des écoles de théologie, mais surtout à être des appareils de sanctification. La sainte théologie, c'est rien qu'un des moyens qu'on peut utiliser pour arriver à la sanctification de l'Église. L'Église devrait fonctionner un peu comme les alcooliques anonymes, là, où chacun veille fidèlement et concrètement sur les autres, puis où quelqu'un est toujours disponible pour aider l'autre en cas de faiblesse. C'est dommage que dans l'Église, on n'ait pas compris ça. Bon, on a parlé de l'interaction directe dans l'Église entre croyants, consciente et visible entre croyants. Il y a aussi une interaction invisible puis inconsciente qui se fait dans l'Église, puis qui n'est pas sans importance non plus. Paul a dit en 2 Timothée 2,22 « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Pourquoi? Ben, les saints désirs qui se trouvent dans le cœur des autres croyants vont nous inspirer les mêmes désirs, ou sont supposés le faire, en tout cas, si on est normal. Les chrétiens sont liés ensemble spirituellement. cette communion-là, c'est pas juste un concept théologique, là, un beau concept, mais c'est quelque chose de bien réel, vous savez. Ce que la Bible appelle la communion des saints, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Quand des croyants se réunissent, il y a une quantité incroyable d'échanges invisibles, puis inconscients, qui se fait, puis qui est due au seul fait qu'ils sont ensemble. La grâce générale qui repose sur l'Église va nous communiquer une certaine grâce supplémentaire. Tu sais, c'est comme le sang qui circule dans les différents membres de notre corps. Ben, les croyants ensemble, c'est pareil. La grâce qui est sur le corps se promène puis touche tout le monde. Les croyants tirent un breuvage spirituel édifiant de leur association avec leurs frères. On peut difficilement parler de la victoire sur le péché ou de croissance dans la grâce sans parler du rôle d'Église locale dans ce domaine-là. Il y a une grâce toute spéciale qui repose sur le corps de Christ quand on est réuni, c'est un fait. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a débuté son épître, sa première épître, en disant « Que la grâce vous soit multipliée » (1 Pierre 1:2). Un frère ou une sœur qui vit près de Dieu va élever le niveau de grâce de l'Église par le seul fait d'être assis là. Il n'y a même pas besoin de parler. Quelqu'un a écrit qu'une âme qui s'élève élève le monde. L'élévation du niveau de sainteté dans l'Église dépend des gens qui la composent. La communion fraternelle, c'est pas juste des chrétiens qui parlent ensemble, cela-là. Ça veut dire que le fait d'être ensemble, ça communique quelque chose. Qu'on le réalise ou non, quand on se réunit, on reçoit tous quelque chose des autres. Puis tous les autres en reçoivent de nous autres, soit en bien, soit en mal aussi. Soit on réchauffe la soupe, ou soit on la refroidit. Mais soyons certains qu'on influence directement la température spirituelle de l'Église dès le moment où on met le pied dedans. Les croyants qui font partie d'Église, qui ont une certaine liberté à louer le Seigneur, le font aussi face à moins de difficultés au niveau du péché, puis jouissent souvent d'une plus grande facilité à se défaire d'habitudes pécheresses tenaces, à cause de la bénédiction qui se rattache derrière la louange souvent, comme on a parlé tantôt, ce qui est bénissant et sanctifiant. Quand on est assis quelque part, il y a 50 ou 100 personnes ou 300 personnes qui louent Dieu pour sa sainteté, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas le goût de pécher bien longtemps. Hein? Au contraire, on a plutôt le désir grandissant de nous sanctifier nous autres aussi, du seul fait qu'on sent la sainteté de Dieu. La grande majorité des péchés qu'on fait ne sont pas commis au milieu de l'Église, mais sont commis quand on est seul puis séparé du reste de l'Église. Alors on voit par là que l'Église possède définitivement des propriétés sanctifiantes. Tout comme le ciel va en être un, tout à fait, un lieu sanctifiant. On ne pourrait pas pécher au ciel, hein? On se sentirait comme des chiens, encore 100 fois pire que sur la terre. Alors on voit que la présence de Dieu est sanctifiante. La seule présence de d'autres croyants autour de nous est quelquefois sanctifiante, et suffisant pour créer en nous autres la crainte de Dieu, puis nous garder de nos tendances pécheresses. Quand le peuple des saints se réunit, on ne devrait pas faire autrement que de sentir la sainteté de Dieu à la seconde où on met le pied dans l'Église. Sentir la sainteté de Dieu nous sanctifie automatiquement. C'est pour ça qu'on devrait craindre Dieu dans l'Église beaucoup plus qu'on le fait généralement. On devrait craindre d'attrister son Esprit Saint par des propos profanes, par exemple, par des plaisanteries douteuses. Il y a des tas de petites choses qui peuvent être inoffensives à d'autres endroits, mais qui offensent puis qui chassent la présence de Dieu dans nos cultes, par exemple. On devrait tous entrer dans l'Église avec une crainte respectueuse, puis réaliser le caractère saint des réunions de l'Église. Quand le patriarche Joseph, par exemple, a été appelé à se présenter devant Pharaon, la Bible dit qu'on le lava et qu'on l'habilla. Dieu, c'est le roi des rois, alors à plus forte raison, on ne devrait pas se présenter n'importe comment devant lui dans l'Église. La marque d'une Église rétrograde, je reprends un peu ce que j'ai dit. Je ne veux pas dire qu'on devrait tous s'habiller comme des cartes de mode, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire qu'on devrait se préparer puis s'habiller spirituellement, puis revêtir Jésus-Christ, autrement dit, en entrant dans l'Église. Bon, la marque d'une Église rétrograde, remarquez bien ça, on tolère des plaisanteries déplacées, puis même des bouffonneries durant les réunions de prière. Il y en a aussi qui chantent des cantiques comme s'ils chantaient des chansons du temps des fêtes. Bon, toutes ces choses-là sont loin d'être normales. Watchman Nee a dit, « Celui qui prononce le nom du Seigneur avec légèreté prouve son éloignement du Seigneur. » J'ai rien qu'à amène à dire à ça. Il y a souvent chez certains adolescents aussi beaucoup de manque de respect pour les choses de Dieu. Il y en a qui plaisantent sur les autres puis qui rient entre eux autres durant les chants. Souvent, il s'agit de jeunes qui ont été élevés dans l'Église. Ils n'ont jamais connu le monde, mais n'ont jamais vraiment connu le Seigneur non plus. Puis leurs parents ont négligé de leur enseigner peut-être la crainte de Dieu, puis le sérieux des choses spirituelles. J'ai déjà été dans une église où il y avait une jeune fille, par exemple. Elle était assise là, puis elle mâchait de la gomme, puis elle regardait au plafond pendant que les autres essayaient de prier autour d'elle. Elle avait les deux pieds sur la chaise d'en avant d'elle, puis elle faisait du bruit avec les pattes de la chaise par terre. Puis elle avait l'air de se moquer complètement de qu'elle pouvait déranger tout le monde, là. Bon, pour reprendre l'expression de Paul, je sentais mon esprit s'irriter au-dedans de moi en voyant ça. Je pense que c'est pas une irritation charnelle que j'avais là. Ces gens-là doivent être repris sévèrement. Des fois, parce que notre église est petite, là, on dirait qu'on est prêt à la remplir avec n'importe qui tellement qu'on est pressé de la remplir. Souvenons-nous, les amis, que fonder une église, c'est pas juste remplir un local, ça. C'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée. Fonder une église, c'est édifier un lieu saint qui va attirer la présence de Dieu, qui va sanctifier les gens qui sont là, puis qui va être un témoignage pour le monde. Comprenez-vous? Trois croyants qui aiment Dieu constituent une meilleure église que 50 personnes qui ne savent pas à moitié pourquoi ils sont là ou qui sont là pour les mauvaises raisons. Comment est-ce qu'il y en a de jeunes qui allent à l'église juste pour se pogner un chum? Comment est-ce qu'il y en a de jeunes filles qui allent à l'église juste, de jeunes hommes qui allent à l'église juste pour se pogner une fille? Oui, on peut faire les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Tu rentres dans une église comme ça, là, où il n'y a pas de crainte de Dieu beaucoup, là, où on laisse aller à peu près n'importe quoi, là, puis n'importe qui, là, puis tu ne sens rien spirituellement. Comme si Dieu n'était même pas là des fois, puis je pense que c'est exactement le cas. On doit donner des avertissements sévères à l'égard de ces choses-là. Il ne faut pas tolérer ça. Faisons des corrections à ces gens-là, puis même des réprimandes sévères s'il le faut. Les jeunes, puis les moins jeunes, doivent apprendre à craindre Dieu dans l'Église. Au moins autant que les anciens devaient craindre Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Saint-Temple. Dieu ne tolérait pas n'importe quoi dans le Temple, dans le sanctuaire. Tu pouvais même mourir si tu entrais là indignement. Je pense que Dieu essaie de nous passer un message, là. L'Église, c'est aujourd'hui le temple de Dieu. On devrait au moins avoir la même crainte puis le même respect que les gens avaient dans l'Ancien Testament, que les sacrificateurs avaient en faisant leur service dans le temple puis dans le sanctuaire. En Romains 15:15, Paul nous dit « À certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. » En d'autres mots, Paul a dit « J'ai été sévère à certains endroits pour vous rappeler ce que vous saviez fort bien déjà, mais que vous négligiez de mettre en pratique. » Donc, une bonne sévérité a pour effet de réveiller notre saine intelligence. Ça peut être vraiment positif pour tout le monde dans l'Église. En conclusion, bien, si vous pratiquez les moyens de grâce, là, moi, je ne peux pas vous promettre à la place de Dieu que vous allez être libre de toute tentation, là, parce que c'est impossible, ça. Mais en persévérant à pratiquer la prière puis les autres moyens de grâce, la tentation va perdre beaucoup de force, par exemple. Quelqu'un a dit que passer du temps avec Jésus nous amène à lui ressembler. C'est ça, les moyens de grâce. Alors, quand on est bien entouré, bien enseigné, soutenu par la prière des autres, puis qu'on goûte la grâce de Dieu par le biais de réunions bénissantes, ben, on met toutes les chances de notre côté pour accomplir cette séparation du monde-là à laquelle le Seigneur nous a appelés. Puis prenons courage, en parlant du péché, là, parce que Dieu compte nos efforts plus que nos victoires.